Alors, today I read Le Yoga de la Perfection de Soi, le quatrième livre, où Sri Aurobindo dit en première ligne « Toute la vie est un yoga ». Alors, le titre du texte, « La Shakti divine ». Nous sommes dans la période du Darshan de Mer, et je veux lire aussi particulièrement ce texte pour cet aspect de la Shakti divine. À mesure que le mental grandit en pureté, en capacité d'immobilité et qu'il se libère de son absorption dans son action limitée, il devient conscient du moi, de l'esprit suprême et universel. Et il est capable de le refléter et de le faire entrer en lui-même ou d'entrer en sa présence consciente. Et en même temps, il devient conscient de degrés de pouvoir de l'esprit beaucoup plus haut que les plus hautes régions qu'il connaisse. Il commence à percevoir un infini de conscience essentielle, un océan infini de pouvoir et d'énergie de conscience sans limite. Cet océan infini est l'ananda, ou la félicité spontanée d'existence. Il se peut qu'il perçoive seulement l'un ou l'autre de ces infinis, car le mental peut se séparer et sentir à l'exclusion des autres et comme des principes originels distincts, ce qui, dans une expérience plus haute, sont des pouvoirs inséparables de l'un, où il peut les sentir dans une trinité ou une fusion qui révèle leur unité ou y conduit. Il peut devenir conscient de cet infini, soit d'un côté du Purusha, soit du côté de Prakriti. Du côté du Purusha, cet infini se révèle comme moi ou esprit, comme l'être, ou comme l'unique et seul être existant, le Purushottama divin et le Jiva individuel, l'âme, peut s'unir totalement à lui, en son moi hors du temps ou de son universalité. Ou bien, elle peut jouir de l'intimité de l'immanence, d'une différence sans la moindre faille de séparation, et de jouir également inséparablement, simultanément, de l'unité de l'être et de la félicité que donne la différence de relation au sein de l'expérience active de la nature. Du côté Prakriti, le pouvoir et l'ananda de l'esprit passent au premier rang et révèlent ce même infini dans les êtres, dans les personnalités, les idées, les formes et les forces de l'univers. Dès lors, la Mahashakti divine, le pouvoir originel, la nature suprême, se révèle à nous. Contenant en elle-même l'existence infinie et créant les merveilles du cosmos, le mental devient conscient de cet océan de Shakti illimité, ou de sa haute présence au-dessus du mental, qui déverse quelques gouttes d'elle-même en nous pour constituer tout ce que nous sommes, tout ce que nous pensons, nous voulons, faisons ou sentons, ce dont nous avons l'expérience. Eh bien, il est conscient d'elle autour de nous et de notre personnalité comme d'une vague de l'océan du pouvoir de l'esprit. ou encore de sa présence en nous et de son action ici-bas qui se sert de la forme actuelle de notre existence naturelle comme d'une base, mais qui a sa source en haut et nous tire vers le haut spirituel supérieur. Le mental peut aussi s'élever et toucher à l'infinitude de la Shakti ou se fondre en elle dans la transe du Samadhi, où il peut se perdre dans son universalité. Dès lors, notre individualité disparaît. Notre centre d'action n'est plus en nous, mais hors de notre moi incarné, ou nulle part. Alors nos activités mentales ne sont plus nôtres, mais se déversent de l'universel dans le cadre mental, vital et corporel, puis se réalisent et passent sans laisser de traces en nous. Et ce cadre que nous sommes aussi est simplement une insignifiante circonstance en l'immensité cosmique de la Shakti. Mais la perfection que recherche le yoga intégral ne consiste pas seulement à s'unir à la Shakti en son pouvoir spirituel suprême, ni à s'unir seulement à son action universelle, mais à réaliser et à posséder l'intégralité de la Shakti dans notre être individuel comme dans notre nature individuelle. Car l'Esprit suprême est un, en tant que Purusha ou en tant que Prakriti, en tant qu'être conscient ou en tant que pouvoir de l'être conscient. Et de même que le Jiva, en l'essence du moi et de l'esprit, ne fait qu'un avec le Purusha suprême. De même, d'un côté de la nature, en le pouvoir du moi ou de l'esprit, il ne fait qu'un avec la Shakti, Para Prakritir, Jiva Bhukta. Réaliser cette double unité est la condition de l'intégrale perfection de soi. Alors le Jiva devint le lieu de la rencontre, du jeu, d'unité de l'âme suprême avec la nature. Chapitre 17 suivant. L'action de la Shakti divine. Telle est la nature de la Shakti divine. C'est le pouvoir éternel du divin qui se manifeste dans le temps en tant que force universelle, créatrice, constructrice, substantatrice et directrice de tous les mouvements et de toutes les opérations de l'univers. Ce pouvoir universel nous apparaît tout d'abord aux niveaux inférieurs de l'existence comme une énergie cosmique, mentale, vitale et matérielle. Dans toutes nos activités mentales, vitales et physiques, dont toutes nos activités mentales, vitales et physiques sont les opérations. Pour notre sadhana, il est indispensable de réaliser totalement cette vérité afin d'échapper aux limitations oppressantes de la manière de voir de l'ego et de nous universaliser même à ces niveaux inférieurs où d'ordinaire l'ego règne en maître. La règle du karma yoga s'applique ici aussi. Le sens de l'ego sert à limiter, séparer, différencier d'une façon tranchante afin de tirer le meilleur parti de la forme individuelle. Il est là parce qu'il est indispensable à l'évolution de la vie inférieure. Dans cette position supérieure, la Shakti se révèle comme la présence ou la potentialité de l'existence infinie, de la conscience, la volonté, la félicité infinie. Et quand on la voit et on la sent ainsi, l'être se tourne vers elle d'une façon ou d'une autre avec son adoration ou sa volonté d'aspiration ou avec l'attrait que peut sentir le moindre pour que le plus grand, afin de la connaître, d'être empli et possédé par elle, de ne faire qu'un avec elle, dans les sentiments et dans l'action de notre nature tout entière. Mais au début, tant que nous vivons encore dans le mental, un abîme de division subsiste, une action double. Nous sentons que l'énergie mentale, vitale et physique en nous et dans l'univers dérive de la Shakti suprême, mais en même temps que c'est une activité inférieure, séparée et en quelque sorte un autre fonctionnement. Cette Shakti supramentale peut se former comme une lumière et un pouvoir intuitif spiritualisé dans le mental lui-même. Il en résulte une vaste action spirituelle, mais encore limitée mentalement, où elle peut transformer complètement le mental et soulever l'être tout entier au niveau supramental. Quoi qu'il en soit, la première nécessité à ce stade du yoga est la disparition de l'ego, de l'auteur, de l'idée, même d'ego, ou du sens de notre propre pouvoir d'action, de notre propre initiative d'action, de notre propre direction du résultat de l'action. Tout cela doit se fondre dans la perception et la vision de la Shakti universelle qui est en mouvement et qui façonne et tourne à ses fins nos actions et celles des autres et de toutes les personnes et de toutes les forces du monde. Au début, quand nous devenons conscients du divin ou de la Shakti, les difficultés de notre relation avec lui, un grand L, ou elle, un grand E, viennent de ce que nous introduisons, la conscience de l'ego, dans notre relation spirituelle. L'ego en nous s'approche du divin avec des exigences qui ne sont pas des exigences spirituelles. Et en un sens, ces exigences sont légitimes. Mais tant qu'elles prennent une forme égoïste, et dans la mesure où elles la prennent, elles entraînent bien des grossièretés et de grandes perversions. Elles sont alourdies d'un élément de mensonge et des réactions indésirable, avec tout le mal qui en résulte. La relation ne peut être tout à fait vraie, heureuse, parfaite, que si exigence s'assimile à l'exigence spirituelle et perde leur caractère égoïste. En fait, les exigences de notre aide vis-à-vis du divin ne peuvent être absolument satisfaites que si elles cessent d'être complètement des exigences et deviennent l'accomplissement du divin à travers l'individu. Et si nous sommes heureux seulement de cela, si nous sommes satisfaits seulement de cette félicité de l'unité en l'être, satisfaits de laisser le moi et le maître suprême de l'existence faire tout ce qui est sa volonté, sa sagesse et sa connaissance absolue, à travers notre nature de plus en plus parfaite. Telle est la signification du surrender du moi individuel au divin, Atma Samarpana. Ceci n'exclut pas la volonté de parvenir à l'unité, à la félicité de l'unité, de participer à la conscience, à la sagesse, la connaissance, la lumière, la puissance et la perfection divine, ni la volonté que le divin s'accomplisse en nous, mais cette volonté et cette aspiration sont nôtres, parce que telle est sa volonté en nous. Au début, tant que nous insistons encore sur notre propre personnalité, elle reflète seulement cela, mais peu à peu elle devient indistinguable de cela, de moins en moins personnel, et finalement toute ombre de séparativité disparaît, parce que la volonté en nous est devenue identique au tapas divin, à l'action de la Shakti divine. De même, au début, quand nous devenons conscients de la Shakti infinie au-dessus de nous, autour de nous ou en nous, l'impulsion du sens égoïste en nous est de s'en emparer afin de se servir de cette puissance accrue à nos fins égoïstes. C'est ce qu'il y a de plus dangereux, car cela amène le sens d'un grand pouvoir, parfois d'un pouvoir titanesque. Et l'ego rajasique, ravi de ce sentiment de force nouvelle énorme, peut sans attendre que cette force soit purifiée et transformée, se lancer dans une action violente et impure, et même, pendant un temps ou partiellement, faire de nous un asura égoïste et un arrogant qui se sert de la force qui lui est donnée à ses propres fins au lieu des fins divines. Mais si l'on persiste sur ce chemin, la perdition spirituelle et la ruine matérielle nous attendent au bout. Et même si nous nous considérons comme l'instrument du divin, le remède n'est pas parfait, car l'ego de forte dimension se mêle à l'affaire. Il falsifie la relation spirituelle et, sous couvert de faire de lui-même un instrument du divin, il en fait, résolu à faire de Dieu son instrument. Le seul remède est d'imposer le silence à l'exigence égoïste, quelle qu'elle soit, de réduire avec persistance l'effort personnel et l'attention individuelle dont on ne peut pas échapper, même pour un ego sadhuique. Et au lieu de s'emparer de la Shakti pour l'utiliser à nos fins, la laisser au contraire s'emparer de nous et nous utiliser aux fins divines. Il n'est pas possible d'y parvenir tout de suite parfaitement. Et on ne peut pas non plus le faire sans danger si l'on est seulement conscient de la forme inférieure de l'énergie universelle, car en ce cas, comme nous l'avons déjà dit, il faut une autre direction, soit du purusha mental, soit d'au-dessus. Pourtant, tel est le but que nous devons garder sous les yeux, mais il ne peut être pleinement atteint que quand nous percevons irrésistiblement la présence et la forme suprême de la Shakti divine. La soumission de toute action du moi individuel à la Shakti est pratiquement une forme de la vraie soumission au suprême. Quand on procède ainsi, le Purusha n'est plus simplement un témoin, mais le maître aussi de sa Prakriti, Ishvara. Au début, il se peut que l'on ne voit pas comment il est possible de réconcilier cet idéal de maîtrise active en soi avec l'idéal apparemment contraire de soumission de soi qui fait de nous un instrument consentant de la Shakti divine. Alors je termine l'action de la Shakti divine de la synthèse des yogas. Alors je reprends juste, je vais terminer par cette dernière strophe. Telle est la réalisation la plus haute de la perfection et de la félicité de l'unité active. Car plus loin, il ne reste plus que la conscience de l'avatar, de l'Ishvara lui-même, qui revêt une forme et un nom humain pour agir dans la lila. Sri Aurobindo. Merci Sri Aurobindo. Merci douce mère. Je dépose cette lecture au pied de Sri Aurobindo et de douce mère, Ganga Lakshmi.